Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment Amos Gitaï a-t-il frôlé la mort en 1973 pendant la guerre de Kippour? Et comment a-t-il mis 27 ans pour faire son film intitulé Kippour? Comment représenter la guerre s'interroge le réalisateur d'origine israélienne Amos Gitaï et l'historien critique de cinéma Jean-Michel Frodon. Quels sont les enjeux du respect des plans-séquences, du changement de rythme du regard pour sortir des conventions de la présentation pour filmer la guerre? Nous retrouvons Amos Gitaï qui revient sur son parcours et sur ses films dans le cadre de la chaire de création artistique au Collège de France et de sa série de cours intitulée « Traverser les frontières ». Dans le cours précédent, Amos Gitaï a expliqué, et je le cite, que chaque film devient une sorte de chapitre, à la fois de ma propre histoire, l'histoire de la famille, les gens proches, mais aussi la thématique qui m'a intéressée à l'époque. Amos Gitaï est né en 1950 à Haïfa, en Israël. Il est le fils d'un architecte qui a fui le nazisme en Allemagne en 1933 et d'une intellectuelle et enseignante spécialiste non religieuse des textes bibliques, née en Palestine. Amos Gitaï fait partie de la première génération née après la fondation de l'État d'Israël, une génération également formée par les grands mouvements de la jeunesse contestataire des années 60. Amos Gitaï est encore étudiant en architecture quand il est blessé au cours de la guerre de Kippour en 1973, lorsque l'hélicoptère d'évacuation sanitaire dans lequel il se trouve est frappé par un missile syrien. Ces éléments biographiques, familiaux et générationnels, de même que le traumatisme vécu pendant la guerre et un sentiment de vie victorieuse, l'inspirent, comme il le rappelle, et nourrissent son œuvre. Aujourd'hui, Amos Gitaï s'arrête en particulier sur son film « Kippour », qu'il analyse en compagnie de son invité Jean-Michel Frodon. Professeur associé à Sciences Po Paris, Jean-Michel Frodon a été directeur de la rédaction des Cahiers du cinéma de 2003 à 2009, après avoir été journaliste et critique au journal Le Monde. Il anime aujourd'hui Projection Publique, le blog cinéma du magazine en ligne Slate. Nous gagnons le Collège de France le 6 novembre 2018 pour le cours d'Amos Gitaï, aujourd'hui Représenter la guerre, et c'est Jean-Michel Frodon qui ouvre le cours.
La séance d'aujourd'hui va être construite et déconstruite, comme Amos aime à le faire, autour de quelque chose qui s'appelle Kippour, Kippour en l'occurrence désignant à la fois un événement historique, la guerre de Kippour en 1973, à laquelle Amos Gitaï a participé, qui joue un rôle décisif dans sa biographie, dans son parcours et personnel et d'artiste, d'auteur. Et à partir de là, les effets, pourrait-on dire, de ce qu'il a vécu pendant la guerre de Kippour et qui va atteindre une sorte de sommet ou de traduction aussi largement partagée de manière publique, qui est un film qui s'appelle lui aussi Kippour, qu'il va réaliser et que nous découvrirons au Festival de Cannes 2000, en l'année 2000, donc plus d'un quart de siècle entre les deux, de vie, de travail, de parcours vers et dans le cinéma, mais aussi de rapport au monde. Et c'est donc en s'appuyant sur ces deux repères qui portent le même nom qu'on va essayer de cheminer aujourd'hui ensemble. Amos, est-ce que tu souhaites...
Bonjour à nouveau. Merci Jean-Michel d'être avec moi aujourd'hui. On peut, pour revenir à certaines choses qu'on a dit dans les semaines précédentes, Kippour, que mon histoire biographique, je vais faire un petit esquisse de mon histoire biographique liée à ce film. C'est aussi, Jean-Michel, je te dis pour la première fois, c'est aussi une trilogie, dans quelque façon. Parce qu'on a parlé dans les séances précédentes de cette, disons, stratégie filmographique ou cinématographique, que comme le Moyen-Orient est très complexe, il ne demande pas un regard unique, mais plusieurs regards. J'ai fait référence l'autre jour à mon métier d'architecte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire en table. Le minimum de soutien, de support pour les tables, c'est 3 pieds. Alors, trilogie. La première, c'était des tournages que j'ai fait pendant la guerre, des films Super 8, qu'on va parler tout à l'heure, on va montrer. Et le deuxième, c'était un film documentaire qui s'appelle Souvenirs de guerre. Et le troisième, c'est Kippour. Alors, pour revenir à cet projet initial, c'est-à-dire la guerre de Kippour, comme vous savez, a commencé en octobre 1973, le 6 octobre 1973, qui est tombé sur le jour de Kippour. Le jour de Kippour, en Israël, c'est un jour très silencieux. Même les gens qui ne sont pas très religieux n'utilisent pas la voiture. D'ailleurs, c'est un jour que j'aime beaucoup en Israël. On écoute pour une fois les oiseaux. Les enfants font des roller skating sur les rues principales. Il n'y a pas de voiture. Et même moi, que je ne suis pas religieux, je ne prends pas la voiture parce que je trouve que c'est un phénomène. C'est comme il y a une sorte de grand filtre sonore qui tombe sur ce pays. Alors, le jour de Kippour, 1973, moi j'avais 23 ans, j'étais déjà dans l'école d'architecture, j'étais étudiant d'architecture. Alors, dans ce contexte de jours, à peu près comme aujourd'hui, à Paris, entre soleil, un peu cloudy, mais à 14 heures, il y avait les sirènes, et ça commençait comme à... Il y avait une sorte de chaos et hystérie générale qui tombait le jour de Kippour en Israël. Le contexte historique, c'est-à-dire qu'il y avait une attaque coordonnée par l'Égypte et la Syrie. L'armée égyptienne commençait de bombarder le canal de Suez et fait des percées sur les lignes israéliennes. Et les Syriens, ils ont attaqué les Golan. Et ils ont avancé pas mal, ils sont presque arrivés jusqu'au lac de Galilée, avec une certaine vitesse. Et Israël, de 1973, 6 ans après la guerre des 6 jours, dans laquelle il y avait cette victoire qui a saisi tous les territoires de Cisjordanie, la Sinaï et le Golan, était dans une phase d'euphorie mystique, on peut dire mystique. Et il n'a pas senti la nécessité de faire aucun accord politique. Et d'ailleurs, comme j'ai dit dans le speech inaugural, c'est pas très loin des phases d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'inquiète l'attitude des pouvoirs israéliens aujourd'hui. Je ne vais pas vous fatiguer avec toute mon histoire. Alors, moi, j'ai étudiant d'architecture. Alors, je sens, comme tous les gens de ma génération, qu'il faut aller défendre le pays. Et c'est le deuxième, entre parenthèses, schisme qui va arriver après, parce que c'est de la guerre de Kippour, c'est une sorte de ligne qui marque, surtout les gens de ma génération, cette nouvelle attitude vis-à-vis le pouvoir. C'est-à-dire, jusqu'à la guerre de Kippour, on peut dire que c'est une sorte d'âge d'innocence, c'est-à-dire qu'on croit que toutes les choses qui sont faites par Ben-Gurion pour les travaillistes, etc., c'est bien pour le pays, et la guerre de Kippour pose de grands doutes et des points d'interrogation. Et dans quelque façon, cet acte de violence de cette guerre et sa brutalité et peut-être ouvre aussi la réflexion qu'est-ce que doit être Israël, comment il peut être lié au Moyen-Orient. Alors, on était allé chercher avec mon ami notre unité militaire, qui était notre unité pendant les services réguliers. Mais dans le chaos, je parle toujours de ce texte d'André Breton, le hasard et le chaos qu'il a fait dans les manifestes du surréalisme. On ne trouve pas notre unité et finalement on est placé dans l'équipe de sauvetage. Et ça, c'est la suite de l'histoire qu'on va parler aujourd'hui. Pour revenir au film, après on va passer au premier extrait. Alors il y avait 3 phases. La première était le tournage des Super 8. Et après il y avait le film de repérage dans lequel j'étais allé voir tous les survivants de cet hélicoptère dans lequel je me trouvais. parce que l'hélicoptère était dans les cinquièmes jours de la guerre de Kippour, c'est-à-dire le 11 octobre. L'hélicoptère était battu par un missile syrien. Et moi, j'étais dans cet hélicoptère. Mon copilote était à peu près la distance entre moi et les gens qui sont assis dans la première ligne. Et lui, il était décapité. Et le cockpit était éclaté par les bonnes chances, parce que sinon, je n'ai pas eu le plaisir de participer dans le Collège de France. L'autre pilote a réussi de voler encore 3 minutes et écraser sur le côté des forces israéliennes. Alors l'événement lui-même était assez bref. Et c'est aussi le raconte avec la mort. C'est-à-dire un des événements les plus choquants de cette guerre, c'était, pour moi, c'était comme j'étais dans cet hélicoptère avant qu'on était touché. J'étais en train d'aider un colonel qui était très gravement blessé. J'ai mis un tuyau d'oxygène comme on a volé pour l'amener à l'hôpital. Et à un moment donné, dans sa poche, il y avait des séries de notes qu'il a prises très rapidement, des choses qu'il a fait, des notes pour lui d'acheter des tomates dans les marchés. Ça tombait de sa poche et tournait pour ramasser cette bout de papier. Et comme j'ai fait le geste pour l'amener dans sa poche, il n'était plus là, il était mort. C'est-à-dire le passage entre la vie et la mort n'était pas dramatique du tout, qui est dramatique par définition. Et après, je vous balance, comme on a fait les séquences précédentes, tout cet élément, c'est-à-dire ça, c'est les matières, on peut dire brutes, ça, c'est les matières biographiques. Cette fois-là, ça touche ma propre biographie. Et la question est toujours comment on peut mettre ça sur la pellicule, comment on peut articuler tout cet aspect-là et faisant un film. Aussi, j'ajoute un autre aspect, c'est-à-dire le projet même d'Israël, dans le sens plus large, était de transformer l'existence des Juifs, qui ne vont pas être strictement des marchands et des intellectuels, mais ils vont être des soldats et des paysans. Et ce projet est réussi. C'est-à-dire, les Israéliens aujourd'hui, ils savent cultiver les déserts et ils sont des soldats efficaces. C'est-à-dire, ce projet qui est comme Gershom Scholem, le grand intellectuel, écrit dans son texte, que je vous conseille, des questions sur le mysticisme juif, il raconte qu'à partir du 7e siècle, les tribus juives arrêtaient d'être des tribus qui combattent. Alors, ils ont été strictement des sujets d'histoire et pas des sujets actifs. C'est-à-dire, ils ont été des nomades, ils ont été poussés par les vagues d'histoire, ils ont été brûlés, discriminés, etc. Ils n'ont pas eu un engagement actif de donner forme à leur destin. Et le projet de création d'Israël, c'était de transformer cette question existentielle et de rendre les Juifs des gens actifs pour donner forme à leur histoire, à leur destin. Alors, moi je suis strictement un produit de cette tendance avec l'histoire biographique, on va parler un autre jour. Je me trouve dans cet hélicoptère, et là, 27 ans après l'événement, c'est-à-dire l'événement 1973, et dans l'année 2000, finalement, on a fait le film. 27 ans, c'est très très long pour réfléchir, et c'est long, et pourquoi ? Parce qu'au début, tout de suite après la guerre, je n'étais pas envie de parler de cette guerre. J'étais envie de l'oublier. Alors, après, il y avait aussi la guerre des Liban, que je vous avais montré l'autre jour, un extrait que j'ai filmé. J'étais allé filmer un part des journaux de campagne dans la guerre de 1982. À partir de House, on a vu aussi des extraits des journaux de campagne. Des gens, ils m'ont appelé toute série de noms que je parle mal de pays. Et comme je n'étais pas en train de modifier leur opinion de moi, je leur dis, qui pense comme ça, c'est pas grave. Cette histoire, c'est une histoire personnelle, mon expérience personnelle de la guerre de Kippour. Je ne vais pas dévoiler la vraie histoire. Et bizarrement, dans le sens dialectique, comme Rabin était élu, et comme il y avait un début de processus de paix, j'ai dit, bon, maintenant que peut-être on va avoir la paix, je vais parler de la guerre. Je vais dire, qu'est-ce que le prix de la guerre, que les gens qui ont envie de faire la paix, ils vont avoir souvenir qu'est-ce que c'est la guerre. C'est une destruction d'individus, c'est un gaspillage de toutes les ressources du Moyen-Orient, ça amène à rien. Et comme l'Europe, elle sait de grandes guerres, avec toutes les victimes, avec les destructions totales, il finit par, à un moment donné, une sorte de fatigue de la guerre, et là, la paix sort comme ça, aussi pas dramatique du tout. C'est une petite conclusion de sauvagerie. Alors, je vous raconte tout ça parce que tout ça, c'est dans le contexte, et on a parlé souvent avec Jean-Michel, le contexte de qu'est-ce qui nourrit tout ce film-là. Le nourrit, c'est un regard civil de ce pays qui me touche, mais que des fois, je ne suis pas d'accord. Des fois, je suis complètement opposé. Mais qui mérite un cinéma fort, qui engage avec cette histoire.
Beaucoup de choses dans ce plan unique, même si on pourrait dire qu'il n'est pas spécialement narratif ou dramatisé au sens habituel. On voit d'abord très simplement et très clairement que c'est un champ de bataille, que c'est une situation particulière, mais en même temps on voit la Terre elle-même, la matière de la Terre et ce rapport à la Terre alors qui est ta terre natale. Et là où tu es né, et qui acquiert une sorte de présence physique très riche, très, très puissante avec la manière dont c'est filmé, et simultanément avec une distance. On n'est pas dessus, on n'est pas dedans à ce moment-là. Il y a un écart, et qui donne aussi une forme d'abstraction. Il y a des moments où on pourrait être dans un objet de peinture abstraite, proche de la peinture abstraite aussi bien. Et pour ceux qui ont vu le film Kippour en entier, le film commence, le personnage qui te représente n'est pas architecte, mais peintre dans le film, et un rapport à la fois très physique et très abstrait avec la peinture. Et encore, parce qu'on pourrait vraiment déplier juste ce tout petit passage de Kippour, on voit donc quelqu'un qui te représente, c'est l'acteur Liron Levo qui représente ce que tu as vécu, qui est clairement ton personnage dans le film, mais on le voit en train de regarder. C'est-à-dire que tu mets en scène ton propre regard sur cette situation. Et donc, je voudrais te laisser la parole, mais en ayant souligné à quel point ce seul plan lui-même est déjà incroyablement fécond, avec donc des choix de cinéma, Kippour est un film qui a une dimension biographique très forte, comme Amos vient de le rappeler, mais c'est aussi, on pourrait dire, un film qui appartient à un genre cinématographique, un genre très nourri, le cinéma de guerre. C'est un film de guerre. Et en même temps, on pourrait chercher dans toute l'histoire du cinéma de guerre l'équivalent d'un plan comme ça, on ne le trouverait pas. Et donc, si tu peux un peu dire comment ça se construit.
C'est-à-dire, une des décisions que je trouvais qu'elle était nécessaire, c'est de, toujours, comme on fait un film, de qu'est-ce que le point de vue. Ça, c'est immédiat dans tous les films que j'ai fait, qu'est-ce que le point de vue. Comment on place les regards. Et là, j'ai décidé dans tous les films que le point de vue, c'est le point de vue de cet groupe de garçons qui étaient dans l'équipe de sauvetage. Et le camarade, il ne doit jamais quitter ce point de vue. Alors, ça, c'est une phrase très facile de dire, même dans un forum si sophistiqué comme Collège de France, mais maintenant, il faut la traduire en syntaxe de cinéma. Comment on filme. Ça implique que Laurent Truchot, qui est là, et Renato Berta, le directeur de photo, ils ont fait beaucoup de répétitions dans l'hélico. D'abord à Paris, et après en Israël. C'est-à-dire comment je peux placer dans cette tout petite boîte de sardines qu'est un hélico, parce que c'est minuscule, c'est un hélico. L'hélicoptère dans lequel je me trouvais, c'est un hélicoptère qui s'appelle Bell 2005, c'est un hélicoptère de guerre que les Américains ont utilisé à Vietnam. Il est tout petit. Il faut dire qu'il y avait des pilotes techniciens, un médecin et trois, nous on était trois, que notre travail c'était de chercher des blessés, de l'amener dans l'hélico. Alors comment on peut à la fois respecter les désirs de mise en scène et de mettre les caméras, les pilotes, les techniciens, les comédiens dans cette tout petite boîte pour pas quitter, pour voir ce plan-là dans lequel Liron Levaux regarde les champs de bataille. Et c'est vraiment été des choses à la millimètre, c'est-à-dire les caméras aussi, elles font des panneaux, parce que après on va parler des stratégies de garder un bloc temporel, de pas interrompu, de donner un temps de réflexion, pendant réflexion, on peut dire même slash méditation, comme on regarde ce plan, quand on regarde, on fait la réflexion en même temps, qui est différent de certains cinémas qui coupent rapidement d'un plan à un autre, exactement pour pas laisser ce temps de réflexion, et pour transformer le spectateur en consommateur à la place d'un interprète. Alors, là, comment on place les caméras? C'est-à-dire, des cinémas comme l'architecture, d'ailleurs, elle doit traduire des questions conceptuelles au terme technique de la technologie. C'est-à-dire, c'est très bien de voir une belle idée, comment on fait un building, etc., mais comment cette toile va être soutenue, est-ce que ça va être cette bois ou un autre, etc. C'est vraiment une question d'articuler dans les détails les plus méticuleux. En plus que Renato Berta exigeait les caméras les plus grandes qu'un Panavision, c'est une caméra énorme, avec des optiques énormes, et il avait raison, parce que c'est une très bonne caméra, appareil. On a tourné avec des pellicules, c'est pas une image numérique. Alors, toute cette question technique, elle doit, à la fois, on doit réfléchir conceptuellement et techniquement en même temps. Et garder cette idée de mise en scène, de pas quitter le regard. D'ailleurs, les scènes qui suivent cette déplan, c'est la scène dans laquelle l'hélico était touché par un missile. Et même cette scène-là, qui est normalement dans le cinéma, on filme avec des choses qui s'appellent blue screen, c'est-à-dire qu'on ajoute l'image d'une façon numérique. Et après, on filme un tout petit maquette, on va lui faire exploser, et on coupe cette image-là et l'image de maquette, et c'est ça que de grandes parties des films de guerre, ils sont filmés. Mais moi, je dis non. Je vais vraiment mettre, pour garder le principe de pas quitter le regard, de pas quitter le visage, que le visage humain devient une sorte de miroir de cette guerre, que l'expression humaine exprime qu'est-ce que c'est cet enfer qui s'appelle la guerre. Je vais trouver un système dans lequel on va mettre les gens de l'hélico. Dans l'hélico, on va simuler un vrai crash. Alors, je traduis à nouveau, parce que j'ai envie de partager avec vous les procédures. J'ai trouvé un seul endroit qui était à Londres, à Pinewood, à Londres, et j'étais allé à Londres, parce que c'est des gens qui font All the James Bond. C'est des films de très grand budget. Et j'ai tombé sur des Anglais adorables. Il a dit, oui, il y a un système, on n'utilise pas souvent. On était allé voir dans les garages, c'est quoi? C'est un système hydraulique dans lequel on déplace tout ce système hydraulique dans le vrai site, c'est-à-dire le Golan. Il faut l'amener au Golan. On pend l'hélico, c'est-à-dire qu'il y a le vrai paysage derrière. On bouge l'hélico, on jette des sangs sur les comédiens. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec toutes les logistiques, mais il faut une stratégie logistique. Ce n'est pas strictement des idées. Si on reste dans les phases des idées, on reste avec des films peut-être intéressants, mais ce n'est pas ça que j'étais envie de faire. Et en plus, que là, on met sur le Golan, finalement, ça arrive sur le Golan, les comédiens sont dedans, et ça commence à neiger. Et les gens sur le Golan, ils disent, bon, il faut maintenant évacuer le Golan. Le producteur français, il a dit, arrête avec tes conneries, tu peux aller à Tel Aviv, tranquillement, il fait chaud, on va tourner avec un blue screen, etc. Renato Berta, il cache dans la voiture, il a dit, il fait trop froid chez vous, c'est désagréable, etc. Et Laurent, mon ami, courageux, il monte avec les machinaux, donne le bon sens aux machinaux, il crache l'hélico, et encore commence à neiger, etc. On tourne une fois, tout le monde me regarde, me dit, c'est comment je le dis, zéro. C'est très mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner, on va retourner. Mais il neige, on va bloquer, le soleil va tomber, on va retourner. Et là, on tourne, et qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'ouvre. Il y a des soleils, c'est exactement correspondant à d'autres scènes. André Breton, le hasard, le surréalisme, etc., il a raison. Alors, c'est ça, c'est-à-dire le film, il demande une certaine ténace de rester avec votre idée et d'aller jusqu'à la fin de cette idée. C'est ça le résultat après des films, la force des films, etc. Alors, tout à l'heure, Jean-Michel m'a dit, j'ai envie que tu parlais, si tu avais d'autres références, d'autres cinéastes. Comme tu as dit, justement, que le cinéma de guerre, c'est un genre particulier. Une des raisons que je n'ai pas fait le film, parce que j'ai dit, je n'ai pas encore prêt. Mais comme le film précédent, Kadosh, c'était un film qui a eu un succès mondial, j'ai dit, bon, là, c'est le bon timing, je vais voir les moyens de faire le film. Mais je n'ai pas eu encore le courage de faire le film. Alors, dans cette époque, je travaillais avec quelqu'un très important dans l'independent cinéma, qui est Samuel Fuller. Et Sam Fuller, un soir, sur un café, il m'a dit, c'est obligatoire, il faut que tu fasses le film. Et je lui ai dit, mais Sam, je n'ai jamais fait un film de guerre. Il m'a dit, regarde pas trop le cinéma, parce qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais reviens à ton souvenir. Il m'a raconté ses souvenirs des correspondants de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé beaucoup, parce que souvent, et c'est une des raisons que les séquences sont assez silencieuses, souvent le film hollywoodien raconte n'importe quoi, parce qu'il met beaucoup de dialogues avec des scénaristes très doués, mais de la guerre, c'est un chaos. C'est un chaos. Il y a les bruits. Les bruits d'hélico, les bruits de bombardement, les cris des blessés. Il n'y a pas l'espace pour créer des dialogues très sophistiqués. Il y a les bruits, les silences, les bruits, les silences. Et aussi, on a tellement envie de rentrer chez nous-mêmes qu'on n'a pas envie de sortir des dialogues très sophistiqués. Alors, le film que j'ai trouvé, Maïdir et Jean-Michel, pour répondre quand même à ta question, quand même, je trouvais que Kubrick, dans les deux films qu'il a fait sur la guerre, Stanley Kubrick, Paths of Glory, Les Sentiers de la Gloire.
Les Sentiers de la Gloire.
Un film qui était censuré en France, comme vous savez. Censure, c'est-à-dire il ne faut pas parler mal des militaires. Et Full Metal Jacket, qu'il a fait beaucoup plus tard. Surtout les premières parties de Full Metal Jacket, c'est des films que j'ai trouvé une idée, que d'ailleurs je n'ai pas répété dans mon film, mais je trouvais très juste. C'est le rapport entre l'hiérarchie militaire qui est stricte et le chaos de la guerre. C'est-à-dire cet contraste entre un militaire qui a quand même une structure hiérarchique stricte, avec des disciplines, et la guerre qui a une expérience complètement chaotique. À raison de plus que beaucoup de films de guerre racontent n'importe quoi, parce qu'ils nous racontent souvent de très belles groupes de chars avec de très belles soleils qui va vers la guerre, etc. Non, c'est un chaos. Comment on peut faire une mise en scène de chaos? Parce que la mise en scène, par définition, c'est mettre l'ordre, c'est créer une certaine structure. Et là, le challenge était de faire une mise en scène de chaos. Alors, les scènes qu'on va voir maintenant, qui est une scène assez longue, mais c'est une seule plan de séquence. Elle raconte un événement qui est passé beaucoup plus tard, que le groupe de soldats essaye de sauver quelqu'un. Alors, pour toujours vous mettre en contexte, encore c'était un jour de pluie, et il y avait des nuages très lourds. Le pilote il m'a dit, aujourd'hui, excusez-nous, on ne peut pas voler, c'est trop dangereux. Les nuages ils sont très bas, c'est interdit à voler. Et il a fait aussi très désagréable, il a fait froid et humide, etc. J'étais allé vers le groupe de comédiens que je trouvais héroïque. J'ai dit, écoute, le producteur, il veut que je vienne à Tel Aviv. Le pilote, il dit qu'on ne peut pas voler. Alors, on ne peut aussi pas tourner aujourd'hui. Et c'est arrivé des acteurs, je rends hommage. Il a dit, non, on a envie de tourner. OK, bon. Alors, maintenant, commencer le projet de mise en scène. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais toujours des haut-parleurs très très forts. Je travaille toujours avec des haut-parleurs. Et c'est Jeanne Moreau qui m'a dit que c'est la aide, parce que avec toutes les situations de tournage, ça aide que les comédiens écoutent qu'est-ce que j'ai envie qu'ils fassent, parce que souvent je fais la mise en scène pendant le tournage. Un micro avec. Le seul problème, que pour les gens qui font le montage et son, c'est un chaos total, c'est-à-dire qu'ils ont la scène. Et après, ils sont partout, les voix de Amos Gitai, ils s'en foutent des voix de Amos Gitai. On veut maintenant la scène. Toi. Et là, on va parler aussi de ça, c'est-à-dire qu'à la post-production, le gens qui a fait la post-production, il m'a dit, arrête, c'est même pas la peine d'essayer de reconstruire cette scène. On va faire des postes en gros dans les studios. Et moi, je l'ai dit, vous pouvez essayer, mais à mon avis, ça va jamais marcher. Alors, ils ont essayé et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le contexte de chaos est tellement différent d'un studio, avec tout l'effort et le talent des comédiens, qu'on ne peut pas reproduire l'expérience. Alors, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai dit, faut travailler comme des archéologues. C'est-à-dire de prendre les petits morceaux de céramique ou porcelaine et construire cette scène en nettoyant des voies de mise en scène. Je reviens à la mise en scène. Alors, je suis là, avec cette porte-voix, amplifiée dans des scènes, avec laquelle je communique avec l'acteur pendant la scène. Après, j'ai quelqu'un à côté de moi qui commande les mouvements des chars. Et après, j'ai quelqu'un à côté de moi qui commande les explosions, les effets spéciaux. Mais, ça, c'est un peu comme préparer une salade, un bon salade. C'est-à-dire, il y a les concombres, il y a des tomates, il y a des oignons. Mais l'acte même de faire les salades, il faut, le bon salade, il faut la faire live. C'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on peut préméditer. C'est pas une chose qu'on peut vraiment simuler. Et la force de cette scène qu'on va voir maintenant, elle est parce qu'elle est faite de ce talent de comédien et tout l'élément qui réunit et qui nous donne un vrai sens de désespoir comme on essaie de sauver quelqu'un.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le réalisateur Amos Gitai et le critique de cinéma Jean-Michel Frodon. Aujourd'hui, représenter la guerre.
En regardant cette séquence, j'ai envie de te demander à la fois Comment tu organises ça? Tu en as déjà un peu parlé, mais on voit bien qu'il y a une sorte de stratégie. Il me semble une stratégie à deux niveaux, ce que nous éprouvons en regardant la séquence, et puis la manière dont ça va laisser des traces dans l'esprit du spectateur. C'est une séquence, quand on l'a vue, après, même si on a des souvenirs plus ou moins proches des films, ça s'inscrit. Il me semble que le travail du cinéaste, en tout cas tel que tu le fais, il est à la fois dans le sens immédiat ou les sensations immédiates, mais aussi ça creuse quelque chose. Et ensuite, peut-être, si tu veux bien dire un peu comment tu travailles avec ces acteurs, comment tu travailles avec ces gens-là. J'ai vu sur d'autres tournages, pas celui de Kippour, comment tu créer autour de toi cette espèce d'intensité et d'engagement de toute une équipe, ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ne voit pas à l'écran, pendant la fabrication d'un film. Je pense que c'est intéressant pour comprendre ce que nous verrons, nous, comme spectateurs, aussi, d'évoquer cette dimension-là.
L'autre jour, je parlais des moods, des state of mind de film. Il faut créer une autre méthodologie. Chaque film, il faut créer une autre méthodologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système rigide et idem pour chaque projet. Mais c'est vrai qu'après cette séquence, de parler tout de suite, c'est un peu difficile parce que c'est un travail, comme tu as dit. Oui. Alors, c'est-à-dire, comme j'ai fait Kadosh, par exemple, je racontais que j'étais intéressé que les comédiens participent dans les questions de comment on compose une cérémonie religieuse, parce que toutes les religions, ils sont une sorte de procédure de bouger des objets dans l'espace, avec un certain ordre. Et ça existe dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie nécessaire. Les gens, ils donnent, à mon avis, trop d'importance strictement en aspect des textes. C'est-à-dire que le texte est important, mais c'est un paramètre. Le paramètre des décors, il est important. C'est-à-dire là, j'étais et tourner dans le vrai site de la guerre, le Golan, qui était aussi en logistique pas très simple, c'est-à-dire qu'un des séquences tournait vraiment à 500 mètres de frontière avec la Syrie. Alors, je peux imaginer que chaque film, il a son temps. C'est-à-dire, le jour d'aujourd'hui, avec les choses féroces qui passent à la Syrie, c'était impossible. Cette film était impossible. Alors, si on a une possibilité de faire un bon travail, un travail cohérent, il faut faire, il faut faire. L'autre jour, j'ai montré à Centre Pompidou un petit avant-première des films que je viens de tourner dans Tramway de Jérusalem, et que tous les films, 36 comédiens, ils sont dans cette tramway. Et c'était possible parce qu'il y avait quelqu'un qui gère cette tramway, avec toutes les choses qui passent en Israël, qui est un mec éclairé. Alors, il m'a laissé tourner. Peut-être dans un an, le mec va être viré, ça va être impossible. Alors, comme on a impossibilité de faire un film, il faut faire. Alors, la méthodologie de comédien. Alors, d'abord, il y a le processus de casting. Alors, j'ai quelqu'un que je travaille depuis des années, Ilan Moscovitch, qui n'est pas du tout le plus célèbre des directeurs de casting, mais il a une sensibilité humaine formidable. Aussi, il a un rapport physique presque avec le casting. Il caresse, il parle. C'est-à-dire, il met dans bonnes conditions de travailler avec eux. J'ai Lorenzo à côté de moi, Marie-Josée, qui a écrit le texte, mais il n'est pas un scénariste débile qui va me dire, tu as écrit cette ligne, alors il faut l'exécuter. Non, elle est curieuse comment ce texte d'origine va être transformé dans un film. Elle suit avec des tendresses. Parce que j'ai travaillé aussi avec des scénaristes, ils m'ont dit, mais tu as changé cette ligne-là, pourquoi tu as changé, etc. Non, je n'ai pas changé, pas parce que j'ai envie de changer. Changer parce qu'il y avait des circonstances qui m'ont proposé une solution qui était meilleure. C'est tout. Alors après, bon, le film Super 8, j'ai raconté aux comédiens mon histoire personnelle que je viens de vous raconter. Et je ne parle pas beaucoup encore. Maintenant, on lance un projet de 3 mois. The physical training, parce que c'est un film dans lequel le body language, comme vous avez vu, il est important. Et en plus, que dans les films de guerre, ils ont un très mauvais raccord de blessés. Et je n'ai pas envie qu'ils vont être blessés. Il faut qu'ils soient en forme. Alors pendant 3 mois, le pauvre Ilan Moscovitch qui fait le casting et tous ces garçons qui sont en bonne forme, ils courent sur la plage avec des sévières, ouais, et avec des gens très lourds, Il fait des exercices physiques, 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 physiques. Pas du tout verbal, physique. Pour que les jours que j'ai dit caméra, ils vont être en forme, ils vont être alertes, leur corps, il va être alerte aux missions qu'il faut faire. Alors c'est strictement physique. Après que cette phase-là est finie, je commence à organiser des racontes. Alors je les fais raconter, les survivants de mon hélico. Bon, alors Duron, il parle avec moi. Rousseau, il parle avec Ouzik Antoni, qui était mon copain, qu'on a parti à la guerre ensemble, qui après il était envie de suicider. Le médecin parle avec le médecin, un autre, parce que le vrai médecin était mort. Et le pilote qui nous a sauvés explique comment il a sauvé l'hélico, c'est-à-dire, là, j'ai envie de charger leur intellect. Dans ce film particulier, d'abord la physique, après l'intellect. Parce que le travail de mise en scène, c'est pas, bon, maintenant, vous avez pris par cœur ce texte, maintenant, il faut jouer. Non. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de leur participation totale, comme tu as dit, Jean-Michel, et toute l'équipe dans cet édifice commun, qui n'est pas une chose facile. Après, il y a plein de questions logistiques, drôles, etc., parce que on a eu en partie des matériels militaires de l'armée, mais l'armée Tzahal, il te donne, s'il est d'accord avec le projet, alors j'étais mis en face de général, de grand général d'aviation. D'abord, il n'était pas très envie d'aider le film. Mais je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'hélico privé, j'ai besoin de matériel. Bon, alors ils sont sortis les dossiers. Effectivement, les choses qu'ils racontaient dans le scénario, c'était exact, que j'étais dans cet hélico. Alors là, ils nous donnent un menu, comme dans un restaurant. Hélico, c'est 20 000 $ le grand hélico par heure. Le petit hélico, 2 000 $. Les chars, c'est comme ça, etc. Et le producteur en France me dit, mais Amo, c'est un film que tu fais sur la guerre, il faut que l'armée te donne sans payer. Je lui ai dit, non, moi, je trouve que c'est normal, il faut payer. Je préfère de payer et pas voir l'armée dans mon salle de montage. Et après, effectivement, il avait cette expérience, était basée alors sur cet tournage que j'ai fait, comme j'ai fait de la guerre. J'avais un petit caméra Super 8 que j'ai pris avec moi à la guerre. Et avec cette petite caméra Super 8, qui aujourd'hui, je dis qu'elle m'a sauvé la vie intellectuellement. Pourquoi? Parce que j'étais dans cet hélico. Et j'ai fait le travail d'aider les blessés, de l'amener à l'hôpital, etc., et de peut-être aider à sauver quelques-unes. Mais en même temps, j'ai filmé, des fois, des choses abstraites, des visages, des textures de la terre. Et c'est-à-dire cet aspect mental qu'à la fois je suis à l'intérieur de cette situation, mais en même temps, je suis envie de tout de suite de laisser une trace, comme tu as dit, d'articuler les choses que je vois. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement consumé par l'événement que j'ai en train de participer. C'est-à-dire, la caméra devient une sorte de shield, une sorte de protection mentale, de bouclier, de cet garçon de 23 ans, qui à la fois, il fait tout le travail pour sauver les gens, mais en même temps, il utilise la caméra comme un bouclier pour que son cerveau reste encore intact. C'est-à-dire l'exercice même d'être à la fois à l'intérieur et extérieur de cet enfer, peut-être il m'a fait différent que mon ami, qui est un ami proche, qui était quelqu'un très sensible, qui après la guerre, il a décidé de tuer dans toute une série de circonstances. Alors il reste aussi des traces. Et je vais vous raconter, parce qu'aujourd'hui on raconte des histoires comme ça, qui initie un peu ce projet de film de fiction, que 20 ans après la guerre, un des survivants appelait ma mère. Moi, j'étais en France dans cette époque. Il a dit, écoute, ce sera gentil si finalement Amos, il me montre le célèbre Super 8 qu'il a filmé, parce que cet garçon, il a perdu un pied dans l'accident d'hélico. Alors, c'est bien qu'il me montre cette Super 8. Et ma mère, qui est une fille prudente, alors elle dit à cet garçon, mais messieurs, qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'elle savait, dans cette époque, que je fais des films politiques. Lui, il dit, je suis un private detector, détective privé. Alors, comme quelqu'un très prudent, alors il dit, bon, dans ce cas, va l'y trouver toi-même. Alors, lui, il m'a trouvé, comme ce n'était pas un mauvais détective privé. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit finalement de voir les Super 8? J'ai pris un café avec lui, je lui ai dit, Tsaki, tu sais quoi, j'ai continué les démarches de ma mère, trouve tout le monde qui restait vivant. Et là, c'était la base des premiers films qu'on va pas voir ce soir, mais qui existe, s'appelle Souvenir de guerre, dans lequel j'ai suivi, effectivement, c'est un film que j'ai fait 1994, parenthèse, un an avant l'assassinat de Rabin, le grand espoir de paix, j'ai fait ce film-là. Et 56 ans plus tard, je vais faire Kippour. Je
rappelle quand même, on est au Collège de France, qu'un des textes les plus célèbres de théorie du cinéma, du grand théoricien allemand, Siegfried Krakauer, compare le cinéma au bouclier d'Athéna qui fait reflet et intermédiaire du regard de Méduse et qui empêche d'être pétrifié et d'être détruit par la réalité. C'est exactement l'image que tu viens d'employer, celle du bouclier, et qu'on peut dire de ce point de vue-là que avant la guerre, il y avait un jeune architecte et quand la guerre de Kippour a lieu, tu vas devenir un jeune cinéaste à travers à la fois l'expérience que tu vas vivre et le fait d'avoir eu cet usage de la caméra à ce moment-là. Peut-être c'est intéressant de voir comment ça se... quel processus commence à ce moment-là, qui va mener jusqu'à 1981 et House, qui est ton premier film officiel, mais en fait tu as fait des choses et des choses qui sont séminales, qui vont se retrouver, se redéployer ensuite dans les films plus construits, des longs-métrages, etc., dans ta carrière de cinéaste proprement dit.
Je dois répondre, c'est
ça. Ouais. Juste parle un peu, si tu veux bien, de ce que tu fais avec la caméra dans les mois et les années qui suivent ce moment-là, parce que c'est là que tu as commencé vraiment à t'en servir.
Non, alors, effectivement, comme tu as dit, c'est-à-dire la guerre, c'est 1973, House, c'est 1980, c'est 7 ans. C'est long. C'est-à-dire, j'ai continué par inertie. L'école d'architecture, j'ai fini mes diplômes d'architecture au Technion, à Haïfa. J'ai eu une bourse pour faire un master et un doctorat aux États-Unis. Moi, je crois que c'était un complot encore de ma mère qui veut m'exporter le plus loin possible, tu vois, que je ne vais pas monter sur un autre hélico. Et Berkeley, c'était très stimulant. C'est la rencontre avec des grands intellectuels, l'ouverture d'esprit à université assez ouverte. Moi, j'ai fait un doctorat d'architecture, mais j'ai pris des classes d'économistes marxistes sur le tiers-monde, des questions de Paul Feyerabend sur les méthodes de recherche, Against Method, des dernières de Frankfurt School, sur les cultures de masse, c'est-à-dire c'était une chose très complémentaire, et plutôt des réflexions, de lire des livres dans circonstances complètement agréables, avec de bons climats, avec la belle Berkeley. Et c'est-à-dire le processus, Jean-Michel, était assez lent. C'est-à-dire, je crois que c'était bien. Je n'ai pas senti la nécessité, que souvent j'ai un peu pitié même des gens qui finissent l'école de cinéma, maintenant il faut faire un film, il faut aller au Festival de Cannes. C'est-à-dire, j'étais nourri, j'ai rempli mon bagage avec plein de légumes et fruits différents, qui vont nourrir dans les continuités et surtout de mettre en contexte les choses que j'ai en train de faire. C'est-à-dire, si je fais Ananas, et comme j'avais une certaine connaissance intellectuelle des questions, je peux situer après le travail que j'ai fait dans certains contextes, et pas strictement les cinéastes professionnels dans le mauvais sens de ce terme. Et aussi, comme je n'ai pas passé même pas une heure dans l'école de cinéma, j'ai gardé une attitude plutôt ouverte et originale au cet médium que j'ai commencé à aimer plus et plus, qui correspondait à mon désir d'exprimer sur des questions que je trouvais nécessaires. Alors, 7 ans plus tard, j'ai fini mon doctorat, j'ai rentré en Israël, j'ai fait House, et on a parlé beaucoup de House, alors je ne vais pas répéter.
Mais lorsque tu tournes, et qui va mener ensuite vers le ton cinéma, celui que nous connaissons, il y a énormément ce qu'on pourrait appeler des images abstraites, en tout cas des images pas narratives, des images qui donnent plutôt des sensations que des récits. Et ça m'a beaucoup frappé l'autre jour quand on a discuté pour préparer cette rencontre. Tu disais, la guerre, ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent sentir les odeurs. Et je pense que tu fais un cinéma qui, d'une certaine manière, cherche à retrouver ce genre de choses en étant passé par l'abstraction, par des choses qui ne sont pas descriptives ou dramatisées au sens narratif, mais qui font exil, qui donnent de la présence, et que c'est peut-être le chemin qui va au film long-métrage Kippour.
Je crois que tu as raison. Mais aussi, toujours, il y a aussi un projet civil, et je répète, c'est-à-dire regardons la guerre pour ne pas la répéter. Et, c'est-à-dire, il faut que le cinéma, qui est un médium très fort, il laisse des traces pour rappeler qu'est-ce que c'est la guerre. Que les gens qui rigolent avec les idées qu'ils peuvent envoyer des chars, etc., et réfléchissent. Si l'art elle a un impact, il a toujours un impact à travers des mémoires, ce n'est pas un impact direct, ce n'est pas une chose qui va changer. Et après, il y a, comme tu dis, tout le travail iconographique, c'est-à-dire à la fois, il y a toutes les représentations de la guerre il y a, par les grands peintres, on peut commencer par Uccello et des autres, mais on peut aller jusqu'à Boyce, c'est-à-dire il y a toujours les recherches de comment on peut matérialiser la raconte avec les destins, comment on peut les transformer et donner une sorte de forme. De toute façon, je crois que dans les questions d'abstraction, c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. Une des sciences qu'on va faire, le rapport entre la littérature et le cinéma. C'est-à-dire que on va parler des travaux que j'ai fait sur les textes d'Aaron Appelfeld de Zilli. C'est-à-dire que le cinéma doit jamais, à mon avis, doit avoir jamais un rapport illustratif aux littératures. Le son, il ne doit jamais être en rapport illustratif aux images. C'est des séries d'agents autonomes qui font un travail d'interprétation. Et la musique, elle doit aussi, elle peut être ajoutée, elle devient une forme d'interprétation, pas d'illustration. Et dans la littérature, c'est très clair, c'est-à-dire le vrai travail, c'est de rendre les choses plus abstraites. Parce que comme je lis un texte, si je décris la scène ici, je dis il y a un grand auditorium, Collège de France, des quantités de gens, des couleurs de leurs vêtements, etc. Mais si on lit le texte comme lecteur, notre cerveau peut balader, il peut habiller ce texte avec des formes différentes. Le cinéma, peut-être son pouvoir et son handicap, il devient tout de suite concret, c'est une photo. Alors c'est vous. Alors, comment je peux prendre un texte et je le rende de qualité abstraite transposée au cinéma? Comment je peux prendre un événement comme Kippour et lui donner une valeur, on peut dire universelle, pas strictement israélienne, qui est le bel geste du Festival de Cannes en 2000, c'était que le grand cinéaste, le plus grand cinéaste peut-être du monde arabe, Youssef Chahine, ait décidé de faire hommage à ce film. Il était au Festival de Cannes la même année, il était allé avec tout ce groupe de comédiens pour monter le tapis rouge avec nous, pour dire que même si la guerre était entre la Syrie, l'Égypte et Israël, nous les cinéastes, on est dans le même côté. On n'est pas dans le côté opposé. Et bizarrement, ce petit geste d'un collègue cinéaste arabe-égyptien et m'a montré que c'était réussi, que la démarche était réussie.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Amos Gitaï dans le cadre de sa série « Traverser les frontières ». Aujourd'hui, représenter la guerre en compagnie du critique de cinéma Jean-Michel Frodon. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion. En 2009, Amos Gitaï, Jean-Michel Frodon et Marie-Josée Sanselme ont publié l'ouvrage « Genèse » aux éditions Gallimard. Cet ouvrage revient étape par étape sur la genèse des films d'Amos Gitaï, sur leur maturation, les tours et les détours d'un processus de création singulier. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation Meryl Meneghetti. Demain, espace et structure, il sera question de cinéma et d'architecture en compagnie d'Amos Gitaï. Et dans quelques instants, vous retrouvez les petits matins. Je vous souhaite une très agréable journée à l'écoute de France Culture.